Nous sommes lundi 14 mars 2011 et vous écoutez Proxy Jeux. Bonjour Olivier.
Bonjour Jérémy. Au sommaire de ce numéro 1 du podcast Proxy Jeux, on va d'abord vous parler de nous, ce qu'on a envie de faire dans ce podcast, et puis on vous parlera un petit peu d'actualité, un petit peu de high-tech, et puis on ira dans le fond du sujet avec un magazine papier qui va sortir bientôt qui s'appelle Dissident, et puis relié à ce projet, les différentes façons de financer un projet ludique. Et en fin de session, Jérémy nous parlera de
Loch Ness.
On commence tout de suite par nous présenter. Donc Proxy Jeux, c'est un nouveau podcast. On écoute beaucoup de podcasts et on a eu envie, nous, de se jeter dans le bain, de vous parler de jeux, et de jeux sous toutes ses formes, que ce soit du jeu de société, du jeu de figurines, du jeu de rôle, etc. La périodicité, ce sera de l'hebdomadaire ou du bi-hebdomadaire. Pour commencer, certainement du bi-hebdomadaire. On verra si on peut, si on a assez à se mettre sous la dent pour faire de l'hebdomadaire. Et puis il y aura des dossiers, a priori au moins un par mois, où on va aller au fond des choses sur un sujet. Et ça sera la surprise. Il y en aura un la semaine prochaine.
Pour présenter un petit peu, le but de nos podcasts, c'est de présenter le local.
Oui.
On est un peu les Jean-Pierre Pernaut du jeu de société.
Tout à fait. Ou les AMAP ludiques.
Les AMAP ludiques.
C'est ça. On va vous parler de ce qu'il y a autour de vous ou ce qu'il y a autour de nous, les associations, les boutiques, ces choses-là. Jérémy, je crois que tu reviens du Festival international du jeu de Cannes.
Tout à fait, j'ai passé quelques heures le dimanche en famille. C'est quand même un festival qui se veut avant tout familial, l'entrée est gratuite. Le but, c'est de faire rentrer le maximum de monde. Le but, c'est de présenter le jeu sous toutes ses formes. Il y a à côté du festival, donc le festival où je vais revenir dessus, il y a un certain nombre de stands, des éditeurs, etc. Mais en parallèle, il y a aussi toute une partie jeux vidéo et puis également de nombreux tournois sur, bon, il y avait du Magic, les jeux d'échecs, le Scrabble, les jeux de cartes type la belote, enfin j'en oublie peut-être. Globalement, voilà, dans les jeux traditionnels, il y a aussi beaucoup de tournois qui se déroulent à côté. Dans d'autres parties du palais des festivals. Donc moi, pour ma part, j'y étais en famille, version tranquille, hein, pas du tout dans le but de faire du reportage. Donc, on a déambulé avec les enfants au milieu des stands, à découvrir de nouveaux jeux. Et ce qui est très agréable à Cannes, c'est qu'il y a de très très nombreuses tables. On peut jouer beaucoup, partout, et on peut essayer quasiment tous les jeux. C'est très bien pour passer du temps avec les enfants. Après, ça reste, pour ceux qui ont déjà fait un tour à Essen en Allemagne, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans la même dimension, mais ce n'est pas le but.
Et donc, à Cannes, il y a 150 000 visiteurs, c'est ça, sur les 4 jours ?
C'est ce qu'ils annoncent, oui.
Donc, on remet dans le contexte, hein, c'est une entrée gratuite.
Oui.
Et on est dans ça se passe à l'intérieur du palais des festivals ?
Oui, c'est ça. En sous-sol, par contre, enfin, ça se passe en bas. Donc c'est un petit peu glauque, hein, parce qu'il faut imaginer qu'il n'y a pas 3 mètres de hauteur de plafond, je pense. Donc tout à l'éclairage artificiel, quasiment pas de puits de lumière. C'est un petit peu oppressant quand même, cette ambiance. Hein, d'autant que pas mal de murs, de choses au sol sont noires, donc ça fait pas beaucoup de lumière. C'est quand même... on n'est pas très à l'aise là-dedans. Quoi. Ça fait du bien à midi d'aller manger ailleurs, de sortir un petit peu et de voir qu'il y a autre chose. Bon, il faut savoir que Cannes, c'est quand même pas un festival, c'est pas un salon où les gens achètent des jeux massivement, hein. Les gens, bon, je pense qu'il y a pas mal de gens locaux. Bien sûr, il y a des gens, des joueurs qui y vont. Mais je pense qu'il y a aussi pas mal de gens du coin qui y vont juste par curiosité parce que c'est gratuit. Quand on parle de 150 000 visiteurs, je pense que ça comprend aussi tous les tournois annexes. Hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont jouer à Magic et puis voilà, c'est tout. Le jeu vidéo aussi draine pas mal de monde. Alors j'y suis passé en vitesse au milieu de la partie jeu vidéo, mais c'est... Enfin, c'était pas mal de concours de jeux de baston, alors je vais pas regarder lesquels. Et tout ce que je sais, c'est que c'était très très bruyant. Donc on a tendance à passer vite et on est... C'est serein finalement le côté des jeux de société. Les gens sont discrets et jouent tranquillement à leur table.
Je me rappelle à Octogone en octobre dernier à Lyon, il y avait plusieurs périmètres. Un périmètre pour les figurines, un périmètre pour le jeu de rôle, un périmètre pour les jeux de société. Et on passait de l'un à l'autre assez facilement. Il y avait une multiplicité de jeux de société. C'est la même chose à Cannes ou alors tu trouves...
J'ai trouvé peu de jeux de rôle. Alors bon, comme je dis, j'étais avec les enfants, hein, donc j'ai pas trop vu de jeux, coin de jeux de rôle ni de jeux de figurines. Hein. Ça reste jeux de société plutôt société. Traditionnel. Mais on pouvait jouer à peu près à tout. Hein. Vraiment, tous les éditeurs étaient sur place. Évidemment, il y avait du Asmodée, il y avait du Edge qui était présent.
Avec des gros jeux.
Oui, alors je me rappelle plus ce qu'il y avait sur leur table. Évidemment, c'est pas le genre de stand familial auquel on va sur lequel on va s'arrêter. Hein. Nous, on s'arrêtait plutôt sur des choses plus traditionnelles. Mais la plupart des éditeurs sont présents quand même. Alors, je sais pas si c'est pas la première année que le festival d'ailleurs se déroule sur 3 jours au lieu de 5. Ce qui devait plaire un petit peu plus aux éditeurs. Puisque comme c'est pas un salon sur lequel se font beaucoup de ventes traditionnellement, je pense que l'intérêt est limité pour eux.
Oui, d'autant plus que tu as dû rater l'un des épisodes le plus sympathique de Cannes, ou au moins du festival de jeux, c'est le off. Il semblerait qu'à la nuit tombée, quand les lumières s'éteignent, il y ait une vie qui soit un peu plus gameuse et avec un peu plus de jeux et un peu moins de quoi d'ailleurs.
Je sais pas, je fais pas partie de ce gratin-là, donc je ne fréquente pas le off. Je me contente du on, et comme je dis, hein, le but c'était de passer du temps en famille.
D'accord. Le festival qui a suivi directement Cannes, c'est le festival des jeux de Saint-Herblain. Je crois que comme Parthenay, c'est un festival qui se déroule sur une grande période, 2 semaines je crois, et toutes les associations de la ville participent, donc c'est vraiment Saint-Herblain qui vit le festival. Il y a également la remise d'un prix du public. Et puis, le week-end dernier, il y a eu un événement dans le nord de la France, dans le 59, c'est le festival Ludinor. Et puis, il y a également en Suisse un festival qui s'appelle Ludesco, où on a pu voir Sébastien Pochon, qui est le Torch Jamaica, par exemple, ou Dispin. Les Suisses ont également leur festival. Jérémy, je te laisse parler des écrans.
Alors, ce que j'appelle les écrans, c'est l'actualité sur ordinateur et les tablettes type iPad, iPhone. Alors, on va commencer avec Seven Wonders, qui, outre avoir raflé un prix à Ludesco, vient donc d'arriver fin février sur le Brett Spielvent.
Et un prix également à Cannes. Prix spécial du jury.
Le prix spécial du jury à Cannes. En attendant le Spiel. Alors, sur le Brett Spielvelt, donc...
Tu peux déjà nous rappeler ce que c'est que le Brett Spielvelt ?
Oui, j'étais en route.
Donc, pour être très clair, vous trouverez toutes les références au site web dont on va parler sur notre blog.
Voilà, donc le Brett Spielvelt, c'est un site allemand qui permet de jouer en ligne avec un navigateur. C'est un site qui existe depuis, je dirais presque la nuit des temps d'Internet. La plupart des applications sont jouables via une petite applet Java. Alors désolé pour le petit côté technique. En gros, ça veut dire que éventuellement sur votre ordinateur ça ne marchera pas, il faudra que vous installiez un petit module externe. Je n'ai pas essayé pour l'instant parce que c'est pas que j'aime pas Seven Wonders, hein, bien au contraire, mais c'est plutôt que je suis pas très friand du Java, donc notamment sur mon iPad ça ne marche pas.
Oui, c'est la question que j'ai posée, on ne peut pas y jouer sur iPad.
Et non, et c'est bien difficile. Parce que si j'ai bien une occasion de jouer, c'est plus sur mon iPad que sur mon ordinateur.
Alors, une petite liste non exhaustive des jeux auxquels vous pouvez jouer sur Brett Spielvelt. Alors, on a Seven Wonders, on a Zexnimmt, on a Carcassonne, on a aussi Funkenschlag, Imperial, enfin Puerto Rico. Énormément de jeux, des grands classiques. Et on joue contre des vrais gens en ligne. Et vous pouvez le faire à toute heure du jour et de la nuit.
Par exemple, à cette heure-ci, combien de personnes connectées ? Est-ce qu'on peut le... Non.
Bon, bref. Merci pour cette question.
C'est le numéro 1. C'est le numéro 1 actuellement du jeu en Europe, du jeu en ligne. Et il faut quand même avouer que j'avais eu l'occasion d'en essayer 2-3 à l'époque. C'est très bien fait. Sur Seven Wonders, j'y reviendrai dans un prochain numéro de podcast. Je ne manquerai pas de l'essayer. L'autre actualité, ça arrive dans la semaine. Là, c'est un peu de la preview. Sur un site que peu de personnes encore connaissent. Il s'appelait Tournoi en ligne il n'y a pas longtemps. Il s'appelle maintenant Board Game Arena. C'est un site fait par un Français. Enfin, je crois qu'ils sont maintenant plusieurs d'ailleurs derrière. Et avec pour objectif de devenir numéro 2 européen d'ici la fin de l'année. Rien que ça. Et donc, le jeu qui va arriver, c'est l'Âge de Pierre, Stone Age, donc, chez Philosophia. Alors du coup, c'est pareil, hein, comme il arrive, j'ai pas pu tester. Mais l'avantage de ce site-là, ce que j'apprécie beaucoup, moi, c'est qu'on peut y jouer sans installer justement de petits modules supplémentaires. Tout marche de base avec le navigateur. Sur le site actuellement, on trouve déjà des jeux évidemment aussi comme Carcassonne. Mais pour ma part, j'aime beaucoup Dominion. Je trouve que sa réalisation est parfaite et permet vraiment de jouer très rapidement des parties à deux. En plus, le site a un petit peu moins d'un an, mais commence à avoir une bonne réputation et on trouve facilement de nombreux joueurs. On tourne facilement à 70 joueurs en soirée. Et sans doute plus au fil des mois.
Et ça marche sur iPad.
iPad, mais c'est pas la joie. C'est assez lent par rapport à jouer sur son navigateur. Enfin, sur son PC traditionnel. Maintenant, on verra avec l'iPad 2 ce que ça va donner. Mais je quitte le sujet.
Et tu vas acheter un iPad 2 alors ?
Non, j'attends. En fait,
iOS 4.3.
Mais on dérive. Voilà, l'autre actualité côté écran, c'était Olivier qui l'a trouvé. Il paraît que Caelus arriverait sur
Tout
iPad.
À fait. Caelus sur iPad, mais c'est pas encore. C'est encore une.
On a révélé
une preview.
Un secret.
Non, c'est pas du tout un secret. Ça va arriver. Il n'y a rien encore de très concret, mais ça va arriver sur une petite tablette.
Mais quand ?
Je ne sais pas.
Bah, on sait rien. D'accord.
Faut pas me poser des questions comme ça.
Ok, alors je pense que je peux faire une preview aussi. Je pense que Puerto Rico arrivera. Je sais pas quand, je sais pas par qui. J'ai rien vu dessus, mais je pense qu'il arrivera un jour.
Non, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, jouer à Puerto Rico sur Brecht, Bitvelt. Mais non, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas.
C'est pas sur Board Game Arena.
C'est ça. Une petite actualité qui n'est plus une news, mais qui date de quelques semaines. Mémoire 44 en ligne. Je crois que tu l'as essayé. Alors, peut-être pas dans sa version finale, mais je crois que tu m'as dit que tu avais joué quand c'était encore en version bêta.
Oui, j'ai joué pendant la version bêta. Le concept du jeu, alors la version bêta, on peut jouer au Mémoire 44 de base, hein, c'est-à-dire sans toutes les extensions, sans l'air pack, sans les différentes armées additionnelles, etc. Le concept, c'est qu'on peut jouer ou bien contre une intelligence artificielle ou bien contre un autre joueur en ligne. Le jeu en soi est gratuit, mais attention, il n'est pas totalement gratuit de jouer à Mémoire 44, simplement on peut le télécharger et l'exécuter gratuitement. Ensuite, pour chaque partie, au départ, un joueur est crédité de 100 lingots, c'est une monnaie comme une autre, et une partie coûte à peu près 2 ou 3 lingots pour jouer. Alors, le jeu est soi-disant en version terminée, le problème pour moi, c'est que justement, la version est terminée par rapport au jeu de base. On peut souscrire normalement une version, différents niveaux d'abonnement pour augmenter ses lingots, puisque sans lingots, bon, ceux qui ont fait les calculs, vous pourrez faire quand même entre une bonne vingtaine de parties, voire même plus.
C'est déjà pas mal.
C'est pas mal, ouais. Bon, de toute façon, ça
pas
dépend.
Mal, mal pour moi, mais c'est vrai que...
Si on est piqué au jeu, ça peut aller vite.
C'est ça.
Donc il existe, à l'époque quand j'avais regardé, il existait aussi des versions plus évoluées, hein, où on pouvait acheter des lingots, bien sûr, à des prix... Plus on en achète, moins c'était cher. Et une version expert qui doit permettre plein de choses. Sauf que à l'époque, la version expert n'était pas encore n'était pas prête et n'était même pas annoncée. Mais elle devrait permettre de couvrir des scénarios, des extensions. Parce que Mémoire 44 de base, c'est sympa, mais c'est de base. Donc rapidement, on en a fait le tour. Et surtout quand on a pris l'habitude de jouer avec les extensions.
N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, @proxyjeux. Et puis, je voulais faire un Follow Monday. En général, on fait des Follow Friday. On enregistre le lundi, donc on va faire un Follow Monday. Je suis @zarcadien. qui est une bonne ressource concernant le jeu de rôle. Et puis je suis aussi at Board Game Geek, qui est une ressource incontournable concernant le jeu de société, qu'on voit sur certains articles intéressants sur le portail, ça évite d'avoir une masse d'informations. Et alors, c'est une ressource en anglais, c'est le portail de référence américain. Si vous voulez des informations un petit peu plus francophones, il faut aller sur TrekTrek.
Et on va passer au sujet suivant. Alors Olivier, je crois que tu voulais nous parler de Dissident, un magazine de jeux de rôle.
Tout à fait. Donc moi, je suis ancien rôliste moi-même. J'ai plus trop l'occasion de jouer, mais comme on dit, rôliste un jour, rôliste toujours. Et donc, j'ai été chercher sur Internet le numéro 0, qui est un numéro en PDF. Et il m'a bien plu. Donc, j'ai pas adhéré à tout. Mais globalement, c'est quelque chose que j'ai pris du plaisir. Donc, il y a une souscription qui est en cours sur le site qui s'appelle ululé.com. Une souscription qui a d'ailleurs été dépassée, puisque le but n'est pas pour ces gens-là de faire un magazine en PDF, mais de faire un magazine papier. Et l'idée est de sortir 3 numéros à l'année. Le format est un format A5 et il y aura à peu près 164 pages, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans le PDF. Donc il y a un fil rouge dans le numéro 0. Alors, le numéro 1 est sorti, je ne l'ai pas lu, je vous parle uniquement du numéro 0. Et le fil rouge de ce numéro-là, c'est le journalisme. Donc les scénarios, les interviews, l'historique qui est fait par les rédacteurs de Dissident, est toujours axé sur ce thème-là, c'est très bien. La première impression, par contre, a été que j'ai été déconnecté par rapport au monde du jeu de rôle. J'ai pas accroché du tout à la première partie, peut-être parce que ça traitait de gens et de jeux que je connaissais pas. Moi, je me suis arrêté à Cthulhu 1920, à Innominé Satanas.
Innominé Satanis.
Satanis, pardon. Et j'ai fait un petit peu de vampire, mais il y a plein de jeux auxquels... de nouveaux jeux que je ne connais pas.
Et qu'est-ce qu'on retrouve un peu comme type d'article alors dedans par rapport à tous ceux qui ont connu Casus Belli à l'époque ?
Alors, on retrouve un peu la même trame, c'est-à-dire que moi ce que je retiens de Casus Belli c'était le scénario, les 2-3 scénarios qui étaient en pleine page, enfin au milieu du magazine. Il y avait des aides de jeu, il y avait des focus sur un thème, ça pouvait être les soins dans Donjons et Dragons, ça pouvait être... là, en l'occurrence, on a une grande partie du... On a un article qui traite du journalisme et de la façon d'utiliser les couverts de presse dans un jeu de rôle. C'est très, très, très agréable. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a eu dans Casus Belli. C'est ce que je recherchais, moi, en tant que joueur et en tant que rôliste, dans ce genre de magazine. C'est-à-dire, c'est de la ressource... autant en tant que maître de jeu que de joueur de jeu de rôle, c'est des choses qu'on peut utiliser pendant nos sessions. Par contre, ils ont essayé d'avancer également sur une partie interview. Et là, c'était des gens que je connaissais pas. J'ai pas trop apprécié.
Il fait combien de pages de magazine ?
Le magazine fait 160 pages.
160 pages quand même, c'est pas mal.
Ouais. Et le PDF, je suis en train de l'ouvrir sous tes yeux, Esbobby. Il fait une centaine de pages seulement. Enfin, c'est beaucoup. Il y a vraiment de la matière, il y a de la ressource. Il y a zéro publicité.
Peut-être parce que c'est le numéro zéro et qu'à terme, ils espèrent bien mettre un petit peu de beurre dans les épinards.
Hein. Ouais, sans doute. Donc j'ai vu tout à l'heure qu'il était possible de télécharger les numéros suivants, ou le numéro suivant, puisqu'il y a un numéro 1 pour 3 euros. Je pense que je le ferai avec plaisir pour en parler au prochain numéro. Donc, le but, c'est quand même de faire un magazine papier qui sera vendu 12 euros. Ce qui est un petit peu cher pour un magazine, un Black Lotus, c'est 5 euros, 6 euros.
Lotus Noir, le magazine.
Le
magazine, oui, c'était dans les 5-6 euros à peu près.
Ça n'existe plus.
Il a été refondé, je crois. En fait, c'est rentrera pas, on gardera ça pour un autre sujet de débat, mais l'éditeur a une manière un petit peu spéciale de gérer ses fonds, etc., et la loi française là-dessus. Mais bref, donc Lotus Noir avait été mort déjà deux fois et encore renaît, on devrait l'appeler Phoenix en fait.
D'accord, un petit peu comme Casus Belli, puisque c'est la troisième mouture, ouais. Je crois, en ce moment. Il meurt souvent, mais il renaît aussi sec.
Mais ils veulent devenir un journal papier. Quel est l'intérêt pour... Enfin, je veux dire, on a une ère de dématérialisation. Ils proposent une version PDF à seulement 3 euros. Est-ce que vraiment... Enfin, est-ce que c'est vraiment pour eux? Enfin, tu les as pas rencontrés, j'imagine, mais...
Non.
On peut... Est-ce que vraiment leur tendance, c'est d'aller vers de la version papier, ou bien ça les tient vraiment à cœur, ou bien c'est juste parce qu'ils pensent qu'ils auront une meilleure diffusion?
Bah écoute, je ne sais pas. Je vais me charger de rentrer en contact avec eux. Et puis, on aura les réponses à ces questions dans le prochain podcast qui devrait avoir lieu d'ici une quinzaine de jours. Au final, en tant qu'ex-rôliste, j'ai parcouru ce magazine avec plaisir. On va s'y intéresser de près, puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Parce que bon, c'est un numéro zéro, hein, c'est le premier. C'est un magazine qui, pour moi, reste assez classique. Et c'est encore une fois pour moi ce qui fait son charme.
En tout cas, ça m'a donné bien envie d'aller voir le numéro 0. Je regarderai ça avec attention.
Le financement de ce magazine m'a un petit peu interpellé. Donc je t'ai parlé tout à l'heure de ulule.com. En fait, ulule.com, quand tu as un projet... n'importe quel projet, ça peut être un projet de film, ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet personnel ou complètement philanthrope, tu peux très bien le présenter sur ce site et puis tu vas faire un appel de fonds. En l'occurrence, l'appel de fonds qui avait été demandé par Dissonance, c'était à peu près 1000 euros, et puis je crois qu'ils étaient à 1250 euros il y a quelques jours. Donc, carton plein pour eux. Le principe, c'est que si vous participez, on peut participer avec différentes hauteurs de financement. On peut donner 1 euro, on peut donner 30 euros, on peut donner 60 euros, on peut donner 120 euros. Et en fonction de la somme qu'on va donner, on va avoir la possibilité de recevoir le magazine. Au format PDF si on donne pas beaucoup d'argent, au format papier si on donne un peu plus, et puis si on donne beaucoup d'argent, on recevra le magazine papier à vie. Bien sûr, il faut que le magazine papier vive. Ça, c'est une autre histoire. Donc, j'ai trouvé cette forme de financement intéressante, parce que ça permet à qui veut bien le faire d'aider des projets qui leur tiennent à cœur. Et puis ça m'a fait penser à My Witty Games, en fait. Alors, je ne sais pas si tu connais ça, cette forme de financement, enfin cette forme d'édition ludique.
Je ne connaissais pas jusqu'à récemment.
D'accord. Donc pour My Witty Games, c'est un portail dédié aux jeux de société. À l'image de My Major Company, c'est une société qui propose l'édition de jeux de société et qui permet aux internautes qui deviennent des édinautes de donner de l'argent, de participer au financement de l'édition des jeux de société qu'ils ont choisi de pousser en avant. Et ça a permis, par exemple, à Witty Pong, le jeu de Bruno Catala et d'Antoine Boza, de voir le jour, et c'est un jeu qui a été porté par les internautes. Donc pour moi, le plus de My Witty Games, c'est que c'est un portail dédié aux jeux de société. Donc c'est la prise en charge du projet dans son ensemble. Alors que Dissident, c'est un projet unitaire, c'est une forme d'auto-édition. Alors que My Witty Games, c'est quand même de l'édition, c'est une forme d'édition et pas d'auto-édition. Par contre, il y a peu de retours par rapport à la participation des internautes sur My Witty Games. C'est-à-dire qu'il faut vraiment investir beaucoup pour avoir l'occasion de rentrer dans ces frais.
Mais Olivier, là, depuis que tu m'as parlé un petit peu de My Witty Games, je suis en train de regarder avec... en direct sur leur site internet, et ce que je me rends compte, c'est que les internautes peuvent participer, c'est bien, au choix d'un jeu, ok, pourquoi pas, s'il leur plaît, enfin, peuvent participer au financement d'un jeu, mais ils peuvent pas choisir le jeu. Les jeux sont déjà pré-choisis par l'éditeur, c'est un petit peu pour un jeu où les internautes participent à l'édition du jeu, c'est dommage qu'ils puissent pas en plus participer au choix.
Non, je pense que tu peux pas demander aux internautes de pousser n'importe quel jeu chez un éditeur. C'est-à-dire que enfin, pour moi, les internautes ne sont pas des éditeurs. C'est-à-dire qu'ils sont financiers, ils vont participer au financement de l'édition d'un jeu, et c'est à l'éditeur de faire le choix du jeu. C'est-à-dire que c'est lui qui va dire ce jeu est bon, ce jeu n'est pas bon. Ce jeu est bon, il faut le modifier. Ou il faut complètement revoir le jeu pour qu'il soit bon.
Est-ce que tu as regardé un petit peu comment ça marche le système de parts, etc. Comment est-ce qu'on participe et quel est le retour sur investissement? Parce que quelque part, c'est quand même un investissement
Ouais,
qu'on fait là.
tout à fait. Alors, le retour sur investissement, il se fait au nombre de jeux vendus. Donc il y a un seuil qui est le seuil des 5000 boîtes,
Ce qui est déjà un bon chiffre.
ce qui est déjà un bon chiffre, puisque le tirage de base pour un jeu de société moderne actuellement. Si on reste dans un jeu normal, je dirais pas un As d'or, pas un jeu de l'année, pas un jeu qui a été primé, c'est 3000 unités. Donc, si le jeu ne se vend qu'à 3000 unités, l'internaute va perdre de l'argent. Il va pas forcément perdre de l'argent. Il aura édité son jeu, il aura son nom dans les règles, il aura aidé à l'édition de son projet. C'est quand même ça. Par contre, pour que l'internaute gagne de l'argent, il faut que l'édition se fasse à plus de 5000 exemplaires. C'est que y a plus de, le premier tirage, le tirage qui permet de gagner de l'argent, c'est 10 000 exemplaires.
Donc il faut déjà qu'il y ait un sacré succès et qu'il y ait
Tout
une
à fait.
réédition.
Tout à fait. Je ne connais pas la ligne éditoriale de My Witty Games. Je ne sais pas si elle est expliquée quelque part sur le site. Je ne l'ai pas vue.
Espérons que ce soit des jeux qui se vendent en tout cas.
Ouais, tout à fait. Moi j'ai quand même un doute, c'est que ce qui m'embête un petit peu dans ce système-là, c'est que donc d'abord le système est un petit peu fermé, mais il y a quand même des grands noms, Antoine Boza, Bruno Catala. Puis il y a aussi des jeux qui ont été primés au concours de Boulogne. Donc c'est un petit peu des gages de qualité. C'est-à-dire que c'est des gens auxquels tu peux croire. Par contre, My Witty Games peut se permettre de faire le mauvais choix, puisque ce n'est pas avec l'argent de My Witty Games que l'édition va se faire, c'est avec l'argent des internautes.
Tu veux dire qu'il participe pas au moins à la moitié ou
Je
du
sais pas.
risque?
Je ne sais pas.
D'accord.
Je sais pas, mais tel que je le vois de ma petite fenêtre, et donc là, je donne un droit de réponse complet et total aux gens de My Witty Games s'ils m'écoutent. Je serais heureux de discuter avec eux et de faire participer tout le monde. Pour moi, c'est quelque chose qui est un petit peu éloigné du concept d'édition, qui est vraiment de prendre des risques et de les mesurer et de savoir faire avec. C'est-à-dire que tu prends un jeu et tu vas faire en sorte qu'il soit un bon jeu et qu'il réussisse. Pas que eux ne le fassent pas. Mais le jeu étant financé par les internautes, c'est beaucoup plus facile de faire des erreurs que quand c'est son argent qu'il y a en jeu.
Mais s'ils font plusieurs erreurs, de toute façon, ils
Ça se
seront
verra.
sanctionnés et
Tout à fait.
ce sera la fin pour eux.
Donc, bon, globalement, donc c'est une autre façon de financer les projets ludiques. Donc, on a vu Oulélé.com. Et sur Oulélé.com, j'ai vu une autre chose. Alors, non, c'est pas sur Oulélé.com, c'est un miroir britannique, anglo-saxon. Qui s'appelle Kickstarter.com. Et il y a un projet qui est vachement marrant, ça s'appelle Going Cardboard, et qui est un projet de documentaire sur les joueurs de jeux de société. C'est quelqu'un qui a un petit peu bourlingué, qui a été voir des joueurs à Essen, qui est allé voir des joueurs un petit peu partout dans le monde, et qui a décidé de faire un DVD. Qui sera bientôt édité, puisque là, en plus du DVD, il y a un jeu de société qui est signé Rainer Knizia. C'est une référence dans le monde ludique, même si il a fait beaucoup de jeux.
Ouais,
Bon.
j'ai peur qu'il soit allé chercher Knidia histoire de donner un peu de crédibilité au projet, mais qu'il ait sorti un fond de tiroir comme c'est souvent le cas.
C'est possible. Et quoi qu'il en soit, le documentaire a l'air super sympa. C'est-à-dire, je vous invite à regarder la petite vidéo qu'il y a sur le site. Ils ont récupéré beaucoup plus d'argent que ce qu'ils avaient prévu, donc ils vont sortir DVD. Alors forcément, c'est un DVD en anglais, donc ça va pas, c'est pas pour nous forcément, mais pour ceux qui sont un tant soit peu anglophiles, n'hésitez pas à y aller, ça vaut le coup. Donc là aussi, ça permet au projet de voir le jour. La souscription de plus de 30$ permet de recevoir le DVD plus le jeu de Rainer Knizia. Donc en fin de compte, c'est bien. Et donc Jérémy, tu voulais nous parler de Loch Ness qui est paru chez
The Game Master.
The Game Master et Gigamic.
Voilà, Gigamic le distribue en France. Le boîtage que j'ai, je crois qu'il est prévu déjà pour la France. Il n'y a pas le logo Gigamic, je vérifie. Ouais, mais il y a quand même écrit en français. Alors, Loch Ness, c'est à ne pas confondre. Il y en a un autre qui existe chez Hans-Jürgen que je ne connais absolument pas, dont je ne parlerai pas. Donc, l'auteur de celui-là, c'est Walter Robert, qui a fait également d'autres jeux comme Star System, que j'aime beaucoup. Un petit jeu de déduction à deux. Voilà, et puis il a fait aussi Architect qui vient de sortir récemment chez Edge. Je ne connais rien à part Kyson, on voit des gens se taper dessus avec des massues. Le principe donc de Loch Ness, pour revenir à nos moutons, ou plutôt à nos monstres, c'est un petit jeu familial. Hein. Le but c'est de jouer ici avec les enfants, ça se joue en un quart d'heure, on va dire grand maximum. Le but du jeu, les joueurs ont des petits pions qui font des photos. C'est des photographes en fait. Enfin, les pions reprennent, pardon, des photographes. Ils doivent prendre en photo le monstre du Loch Ness. Alors, le plateau, ça montre le lac avec quelques petites îles et un certain nombre de sites de prise de photos. Les joueurs vont donc en début de partie placer leurs photographes un petit peu partout autour du lac ou sur les îles. Ensuite, on va placer le monstre. Alors, le monstre, il est en trois pions. Parce qu'en fait, il est assez long, donc il occupe trois cases. Alors, je vais montrer en même temps à Olivier à quoi ça ressemble. Alors,
on va essayer de faire un petit film qu'on mettra sur le blog.
Tout ça en live, attention. Donc, tac, le monstre fort, il colle au plateau qui est en pente. Voilà, donc en fait, donc, il y a la tête, il y a ensuite... on peut imaginer qu'il fait des... il fait des vagues dans l'eau. Donc ensuite, on voit son dos qui ressort et puis sa queue. Donc le principe, c'est qu'à son tour de jeu, un joueur peut ou bien faire avancer le monstre, qui ne veut pas tenir, ou bien...
Ça ne tient pas quand le plateau n'est pas...
Voilà, droit. Mais bon, on a trop de câbles ce soir.
C'est ça.
Et donc on peut ou bien faire avancer le monstre, ou bien déplacer son photographe. Donc pour faire avancer le monstre, on lance le dé, on l'avance d'un nombre de cases indiquées. Ensuite, sur les cases où arrive le monstre, sont repérés par des petits pictos les endroits, les lieux... Les photographes, sur lesquels les photographes doivent se situer pour le prendre en photo. Donc, dans l'exemple que j'ai là, par exemple, il y a sur les trois cases où se trouve le monstre, le photographe qui est sur le bateau jaune peut prendre trois photos. Donc, quand on prend trois photos, le joueur va piocher dans une poche trois petites tuiles en carton.
Une poche, c'est un sac.
Oui, pardon, c'est une expression bordelaise. Donc, il va piocher trois petites tuiles qui représentent les clichés. Parmi ces clichés, il va prendre celui qui est de meilleure facture. Donc les clichés vont de 1 à 5. Et la bonne idée, que je trouve vraiment, j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est la thématique autour de la photo. C'est-à-dire que les photos, les clichés ratés, qui valent 1, sont souvent des photos surexposées, sous-exposées, voire même avec un gros doigt devant, qui empêche vraiment d'apprécier le monstre.
J'en ai une qui est clairement toute noire. On imagine peut-être un dos de... Non, on n'imagine rien parce qu'elle est toute noire.
Voilà, il y en a aussi par exemple à deux points où on voit juste à peine la gueule du monstre, voire même toute floue. On pourrait presque si la mise au point était faite correctement, mais non.
Ouais, c'est très drôle.
Voilà, ouais, moi je trouve ça sympa. En tout cas, les enfants se rendent compte tout de suite de quelle est la bonne photo ou pas. C'est très bien, en plus, peut-être qu'avec ça, vous pouvez les initier la photo, je n'ai pas encore essayé. En tout cas, et les photos bien sûr de valeur 5 sont parfaites, le monstre on le voit dans sa totalité, bien net, voire même des fois les touristes qui posent devant avec le monstre en fond, c'est superbe. Voilà, que dire d'autre? Bien sûr, le jeu se déroule. Ah pardon, donc quand on a pris 3 clichés, on n'en garde qu'un seul, le meilleur. Ensuite, le reste retourne dans le sac. La partie s'arrête quand il n'y a plus de tuiles dans le sac, et c'est celui qui a bien sûr marqué le plus de points qui l'emporte. Donc un petit jeu, bon, hein, c'est pas. c'est pas très intellectuel non plus, mais c'est très fun à jouer avec les enfants, et en plus le design du plateau, le petit monstre aussi est vraiment très bien réussi. Tout ça, ça crée une petite ambiance, un bon enfant qui marche bien, d'autant que le format un quart d'heure, c'est parfait pour jouer ça avec les enfants avant d'aller se coucher.
Oui, c'est très coloré, le monstre a vraiment une très belle tête, une très jolie tête, je peux te croire quand tu me dis que ça marche bien avec les petits-enfants. À partir de quel âge, pour quel âge est-ce que c'est donné ?
Alors, l'éditeur affiche 4 ans. Je dirais plutôt quand même, 4 ans, ça me paraît un petit peu tôt. La règle n'est pas compliquée à expliquer, mais l'air de rien, savoir gérer où placer ses photographes, etc. Je le donnerais plutôt pour 5-6 ans.
D'accord. Et jusqu'à quel âge, a priori ? 8 ans, 9 ans ?
Ouais, à peu près. Hein. De toute façon, entre adultes, je sortirai pas ça. Hein. Par contre, les parents qui jouent avec les enfants ne s'ennuieront pas pour autant. Mais on jouera pas ça entre adultes.
Très bien. En tout cas, c'est très mignon, très joli, très coloré. Et puis, ça rentre bien dans le thème. Ce podcast touche à sa fin. Jérémy, je te remercie beaucoup d'avoir passé cette grosse demi-heure avec moi. Et puis à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, dites-nous ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, envoyez-nous des compliments, des insultes, n'hésitez pas, on peut tout entendre.
Et la semaine prochaine, vous retrouverez un reportage dont on ne veut pas...
Un petit dossier,
voilà, où Olivier est parti avec sa mallette à micro, interviewé, je ne vous dévoilerai pas qui...
Et moi non plus.
Voilà, un petit peu de surprise pour la fin de la semaine. À bientôt.
À bientôt.